13-14, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, le 13-14 à Saint-Dié-des-Vosges aujourd'hui, dans le cœur souffrant de l'actualité et de la campagne électorale. L'hôpital, ici, il y a 250 lits, c'est un hôpital de taille moyenne. Retour un peu plus de 3 heures en arrière ce matin, 9h37, devant l'écran de régulation du bloc opératoire. Le professeur Mestelman, anesthésiste, réanimateur, ça coince déjà.
Vous voyez le tableau, deux difficultés aujourd'hui. Il y a des urgences qui sont arrivées cette nuit, qu'il va falloir rajouter au programme. Et à ça, il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on vient d'apprendre que l'infirmière qui devait être de garde cette nuit pour le bloc est en arrêt maladie, bon, probablement le Covid dans cette période.
Ici, 15% du personnel est absent. Autre chiffre clé pour les débats que nous aurons dans l'heure à venir, la moitié des médecins viennent de l'étranger. Alors en reportage et avec nos invités ici à l'hôpital de Saint-Dié, le constat, les pistes de sortie de crise, la double vague de Covid, le manque de personnel, la crise de l'hôpital dans une région touchée elle aussi par la désertification médicale. Que proposent les candidats? Premier reportage dans la cellule de crise Covid réunie hier, c'est dans un instant. Mais d'abord, bien sûr, le 13-14, ce sont aussi les grands titres de l'actualité. Et c'est avec vous, Jérôme Cadet, bonjour.
Bonjour Bruno, bonjour à tous. Dans les Vosges, comme ailleurs en France, les Français courent après les autotests indispensables pour éviter l'isolement quand vous êtes cas contact. Et vous verrez que de très nombreuses pharmacies sont en rupture de stock. Le projet de loi instaurant le pass vaccinal passe l'étape de l'Assemblée nationale, adoptée cette nuit. En première lecture, les députés LR se sont divisés, et c'était, nous dira Yael Gauz, l'objectif de l'Élysée. Nous nous intéresserons à la situation au Kazakhstan, la police a tué des dizaines de manifestants cette nuit. Le pouvoir kazakh appelle la Russie à l'aide. Et puis le feuilleton Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis, bloqué par les autorités australiennes à Melbourne, car il n'est pas vacciné. Décision lundi. Nous écouterons ce qu'en dit Rafael Nadal. Il ne pleure pas vraiment sur le sort de son rival.
Et à Saint-Dié, Jérôme, juste avant 14h, un autre enjeu dans cette région enclavée des Vosges, les transports. La ligne Épinal-Strasbourg vient de rouvrir. Illustration du regain d'intérêt pour le train, le 13-14. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
332 252 malades du Covid en plus hier en France, nouveau record. Cette crise dure depuis 2 ans. Ici, à l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges, nous sommes donc dans la petite pièce où se fait la régulation du bloc opératoire. Un écran avec 6 colonnes principales, comme autant de salles d'opération. 4 sont actives actuellement et vous voyez que la situation va vite. On parlait d'une infirmière absente dans les titres. Eh bien, le professeur Mestelman vient de me dire à l'instant qu'il avait appris que 3 autres infirmières étaient symptomatiques. Alors, côté Covid, le plan blanc a été déclenché ici le 9 décembre. Ce n'est pas le raz-de-marée. Lors de la première vague, l'hôpital avait accueilli jusqu'à 85 patients. Là, on est à 10 pour 12 lits Covid. Mais vu la vitesse de propagation du virus, on s'inquiète pour les jours à venir. Ici comme partout, le cocktail Covid plus fatigue, plus hiver est redoutable. D'autant qu'il est tombé ce matin une petite pluie neigeuse qui remplit habituellement les urgences. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Spécialiste des questions de santé à France Inter. Véronique, vous vous êtes glissée hier dans un endroit crucial de l'hôpital.
Oui, comme chaque semaine, il y avait cellule de crise hier après-midi à l'hôpital. Le directeur des soins, Pascal Léonforte, a réuni le staff médical en présentiel et en visio pour faire le point de la situation. Ce qui est sûr, vous allez l'entendre, c'est que l'hôpital est déjà bien rempli et qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre.
Bonjour à tous. En ce qui concerne notre établissement, nous avons atteint quasiment les 93% de taux d'occupation sur l'ensemble des services. Donc on voit qu'on est quand même extrêmement limité aujourd'hui en termes d'hospitalisation potentielle.
D'autant plus limité que les effectifs ne pourront pas suivre. L'hôpital a déjà une dizaine de postes d'infirmières vacants. Il y a aussi l'absentéisme habituel, on va dire, les congés maternité notamment, mais aussi depuis quelques jours, des cas de Covid qui se multiplient au sein du personnel.
J'ai refait le point là juste avant de rentrer en cellule de crise. Nous avons 25 infirmières aujourd'hui qui sont arrêtées. Les cas continuent à augmenter progressivement chez nos personnels.
Des lits déjà bien remplis et un effectif très contraint si les choses se gâtent. Alors on fait comment? Demande le docteur Marie-Françoise Bragard. Elle est chef du pôle médecine urgence et s'inquiète pour le week-end d'avenir.
On peut monter à combien précisément sur le secteur Covid parce que ça va être une cata?
m'inquiète d'autant plus que c'est ma pomme qui s'occupe du Covid dimanche, donc il va falloir trouver des lits.
Pour dégager de la place, le directeur des soins veut éviter d'aller au-delà des 20% de chirurgie déjà déprogrammée. Il préfère pour l'instant rouvrir des lits qu'on avait fermés en médecine, faute de personnel. Mais forcément, si on les rouvre à effectif constant, il va falloir réorganiser et intensifier le travail des équipes disponibles.
Il va falloir retourner sur des organisations à 3 infirmières sur la journée plutôt que 4, avec des horaires dérogatoires de 10 heures par jour pour certains secteurs.
Finalement, c'est beaucoup de travail de réorganisation pour libérer ne serait-ce que 3-4 lits dans les prochains jours. Et certains ici n'hésitent pas à dire qu'on n'en serait pas là si tout le monde était vacciné.
Bonjour Marie-Françoise Bragard.
Bonjour.
Chef du pôle médecine urgence, on vous entendait dans ce reportage vous inquiéter pour le week-end. On était donc dans la cellule de crise Covid. Ce qui est saisissant, alors je rappelle les chiffres que citait Véronique, 93% de taux d'occupation, 20% d'opérations de chirurgie déjà déprogrammées. Au fond, pour une dizaine de malades, l'hôpital est en train de se réorganiser.
Effectivement, donc nous avons 10 malades Covid, on peut en accueillir une douzaine sur l'unité Covid et quelques autres dans les chambres d'isolement des secteurs, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas dépasser 18 patients Covid. Donc si on dépasse ce nombre dans les prochains jours et en particulier en début de semaine prochaine, il va falloir à nouveau déprogrammer toutes les activités programmées, en particulier donc de la chirurgie programmée, mais aussi toutes les activités de diagnostic ou de traitement programmées dans les autres services de médecine.
En sachant que la particularité ici, il n'y a pas de réanimation à proprement dire. Donc, si vous devez, s'il y a des soins de réanimation nécessaires, les patients doivent être envoyés ailleurs.
Tout à fait. Nous avons une unité de soins continus où nous pouvons accueillir des patients, mais qui ne peuvent pas rester intubés, ventilés pendant plus de 48 heures. Et donc, nous devons transférer sur des unités plus lourdes à Nancy, Strasbourg ou Épinal.
Alors, on a beaucoup parlé d'emmerdement hier, docteur Bragard. La moitié des malades sont des non-vaccinés, ce qui est bien supérieur à leur proportion en population générale. Ça a quelles conséquences pour vous ?
Tous les patients qui ne sont pas vaccinés donc arrivent avec des formes beaucoup plus graves et donc nécessitent des soins plus lourds et donc amputent les autres services de possibilités chirurgicales ou de possibilités médicales. Et donc, des patients vaccinés ne peuvent pas être soignés à cause des patients Covid non vaccinés.
Encore une question et puis on vous retrouvera tout à l'heure, docteur Bragard. Le pic hospitalier d'Omicron n'est pas attendu avant la mi-janvier. Comment voyez-vous les jours et les semaines à venir ?
Pour les deux semaines à venir, nous sommes très inquiets. Vraisemblablement, il faudra donc redéprogrammer et augmenter l'unité Covid, peut-être au milieu de semaine prochaine. Donc encore des patients en souffrance pour les autres pathologies.
Voilà Jérôme Cadet pour ce premier coup de sonde à l'hôpital de Saint-Dié. On retrouve le docteur Bragard et le professeur Mestelman tout à l'heure dans l'émission. J'ajoute, Jérôme, qu'à côté de notre hôtel, il y a un laboratoire d'analyse médicale.
Oui.
Et en sortant ce matin, nous avons déjà croisé une jolie file d'attente, sachez-le. Je crois que vous en parlez dans un instant, mais d'abord, l'actualité, c'est le projet de loi sur le pass vaccinal qui franchit l'obstacle de l'Assemblée nationale.
Oui, c'était tôt ce matin, avec du retard sur le calendrier souhaité par l'exécutif, mais le Premier ministre Jean Castex espère toujours une entrée en vigueur dans moins de 10 jours, le 15 janvier, même si cela semble un peu court. On va revenir sur ce vote et ses conséquences politiques dans deux minutes. Mais avant cela, intéressons-nous à l'une des conséquences du nouveau protocole voulu par le gouvernement, la chasse aux autotests. Les adultes et les enfants déjà vaccinés et cas contact d'une personne contaminée ne sont plus obligés de s'isoler. En revanche, ils doivent 2 jours et 4 jours après un premier test réaliser 2 autotests. Les pharmacies sont censées les délivrer gratuitement, mais avec l'explosion du nombre de cas contacts en trouver relève du parcours du combattant. Hélène Roussel l'a constaté à Saint-Nazaire.
Ils sont en première ligne avec depuis quelques jours la désagréable sensation d'être mis en porte-à-faux, des pharmaciens désemparés.
Nous n'avons plus du tout d'autotests. Malheureusement, on n'a pas de solution. Nous, on a tous les mêmes canaux de distribution qui sont en rupture. C'est très frustrant pour nous, c'est frustrant pour les gens et on ne sait pas quoi faire. Et on est censé les délivrer en plus de manière gratuite aux personnes qui sont cas contact. Les personnes s'attendent à ça et nous, on est dans la possibilité de leur fournir ça.
Que bon, ils ont été débordés aussi, les fabricants de tests. On peut répondre à la demande comme on voudrait. Déjà que c'est une situation extrêmement compliquée, niveau tests, vaccins et tout ça, on n'a jamais vu ça.
En face, ce sont des clients épuisés. Manu cherche des autotests depuis 2 jours, obligatoires pour sa fille, cas contact à l'école, et elle s'interroge.
Parce que là, il y avait un cas dans la classe, mais il y en aura certainement un autre
dans une semaine, dans 10 jours, dans 15 jours. Enfin, s'il n'y a pas les produits à distribuer en adéquation avec le protocole, oui, il va peut-être falloir à un moment se dire qu'il faut changer ce protocole.
Manu finira par trouver, dans une grande surface, 10 euros la boîte de 5, oublier l'autotest gratuit pourtant promis par le gouvernement.
Reportage Hélène Roussel, France Bleu, Loire-Océan. La France a enregistré un nombre record de tests la semaine dernière, près de 8 300 000 entre le 27 décembre et le 2 janvier, tests antigéniques ou PCR. On parlait de la situation à l'école. À l'instant, les enseignants vont d'ici la fin du mois de janvier, recevoir des masques chirurgicaux et non plus des masques en tissu. Annonce du Premier ministre ce matin. Quant à savoir s'il faut généraliser les masques FFP2, les masques de type bec de canard, le gouvernement attend l'avis demain du Haut Conseil de Santé Publique pour trancher. Un gouvernement qui peut donc se réjouir de l'adoption cette nuit en première lecture à l'Assemblée du projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal après 3 jours de débat houleux. Le texte instaure l'obligation pour les plus de 12 ans d'être vaccinés pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, aux bars ou aux transports publics interrégionaux. Texte adopté en toute fin de nuit, 5h25 précise, 214 voix pour, dont 28 issus de LR. Mais 24 députés Les Républicains ont voté contre et 22 se sont abstenus. Alors pas de commentaire ce matin de Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle sur le sujet. Elle est en déplacement dans les Bouches-du-Rhône aujourd'hui. Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée, salue lui une avancée. La droite s'est montrée plus responsable qu'il y a 6 mois, dit-il.
Au pass sanitaire, il y a 6 mois, il y avait simplement eu 6 votes pour et 33 contre. Là, aujourd'hui, le vote pour est majoritaire, ce qui montre bien effectivement la volonté des députés Les Républicains d'être dans la droite ligne de sa candidate, puisqu'on est passé de 6 à 28 voix pour et qu'au contraire, les contre ont diminué, ils sont passés de 33 à 24. Donc tout ceci montre effectivement qu'il y a une volonté de collectif, parce que dès le début, on a voulu tenir une ligne de clarté, de responsabilité, et on voulait garder cette ligne-là parce que sur la situation sanitaire, nous sommes un parti de gouvernement, et donc nous ne voulons pas tomber avec les extrêmes, nous ne voulons pas mêler nos voix avec eux, parce que nous, on doit être en responsabilité dans quelques mois, et on doit répondre tout simplement à l'enjeu de protection de santé des Français, tout en préservant les libertés, bien sûr, de chacun. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver.
Damien Abad, LR, divisé donc sur ce texte. Bonjour Yael Gauz.
Bonjour Jérôme.
Chef du service politique d'Inter. C'était l'objectif d'Emmanuel Macron. Mission réussie.
Ça, c'est le vote dans les urnes qui tranchera la question. Mais à court terme, c'est un fait de campagne, un vrai changement. Jusqu'à maintenant, on avait un Emmanuel Macron en surplomb, président, beaucoup plus que candidat, à la recherche du bon angle d'attaque contre Valérie Pécresse. Pourquoi elle? Parce que c'est celle qui marche le plus sur ses flat-bandes électorales. Avec sa guerre déclarée aux anti-vax, Emmanuel Macron cherche à l'étouffer d'entrée de jeu en réactivant le clivage pôle contre pôle, lui contre l'extrême droite, réduisant l'espace de la droite LR, dont il sait qu'elle est divisée sur cette question du pass et des libertés. D'ailleurs, les porte-flingues de la majorité surfent sur ces contradictions. Christophe Castaner, ce matin sur France Info.
Elle demande que ses députés la votent. Résultat, cette nuit, une explosion totale du groupe LR à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas comment ça se passera si elle devenait présidente, mais là, c'est clairement la chienlit.
Ou encore ce tweet du député LREM Pierre-Alexandre Anglade. Comment Valérie Pécresse peut-elle diriger la France dans la crise si ses troupes ne la suivent pas? En petit comité, le finaliste de la primaire, Éric Ciotti, reconnaît lui-même l'habileté tactique de l'Élysée. Le ras-le-bol face aux non-vaccinés fait mouche dans l'électorat LR âgé. Et surtout, cela change le rythme de ce mois de janvier. Avant Noël, Éric Zemmour imposait son horloge, celle du grand remplacement. Depuis 48 heures, tout le monde court derrière Emmanuel Macron, en positif comme en négatif, mais en politique, celui qui mène, c'est celui qui polarise.
Merci à vous Yael Gauz. Ce projet de loi sur le pass vaccinal doit maintenant être examiné au Sénat à partir de lundi prochain. Parmi les activités qui seront concernées par ce pass vaccinal, les concerts. Pour l'heure, les organisateurs doivent composer avec les jauges, pas plus de 2000 personnes en intérieur. Dans ces conditions, beaucoup préfèrent renoncer et reporter une nouvelle fois. Les fans en ont désormais l'habitude. Magali Homo.
Les synthés de bon entendeur, Marie devait les écouter en vrai en mars 2020, concert reporté 3 fois en 2 ans.
J'ai vraiment très envie de redécouvrir les sensations d'un concert et je trouve que c'est important de leur montrer notre soutien.
Heureusement pour le 22 janvier, elle sera en week-end.
Il n'y a pas de problème de congé ou de jours perdus. Moi, c'est du divertissement, je peux apprécier les artistes, je suis contente d'avoir tenu bon pour les voir et je me plie un peu à cette décision.
Elle s'arme de patience tout comme Émilie.
Un concert de Björk à la scène études musicales avec un orchestre reporté en juin 2022.
Elle croise les doigts en attendant.
Derrière leur écran.
Émilie prévoit d'aller applaudir Feu Chatterton dans quelques semaines. Ce concert aussi, elle l'attend depuis longtemps. Mais avec l'arrivée du pass vaccinal, elle n'est sûre de rien.
Je ne suis pas certaine d'avoir mon schéma vaccinal complet. Et effectivement, je me prépare peut-être à ne pas assister au concert de février à cause de ça.
Il y a aussi le fait de rester assise, l'idée n'enchante pas la jeune femme.
C'est une musique qui se prête à plutôt être debout et danser. Ça entraîne quand même une modification vraiment aussi dans l'expérience en fait du concert.
De report en déception, certains n'ont plus la patience d'attendre. Sur les réseaux sociaux, ils revendent leur place à prix d'or.
Et selon le syndicat national du spectacle musical et de variété, le secteur a perdu de 80 à 85% de chiffre d'affaires entre 2019 et 2021. Ces responsables sont reçus aujourd'hui par les ministres de la Culture et de l'Économie. Ni annulation, ni report pour le concert des Enfoirés au profit des Restos du Cœur. Ils auront bien lieu, mais se joueront à huis clos à Montpellier du 20 au 24 janvier. Une perte de 4 millions d'euros pour les Restos. Omicron qui perturbe la vie des Français. Pour la Afrique du Sud, où le variant est apparu, ça va mieux. Désormais, les voyageurs vaccinés arrivant en France d'Afrique du Sud ne sont plus soumis à quarantaine.
Le 13-14 entre Saint-Dié-des-Vosges et Paris, Jérôme Cadet, cette question à présent, la France aura-t-elle besoin de davantage de charbon pour passer l'hiver?
La question se pose alors qu'EDF a mis 4 réacteurs nucléaires à l'arrêt pour maintenance, pour continuer de produire assez d'électricité. Il va donc falloir compenser. Et pourquoi pas en utilisant un peu plus les 2 centrales à charbon encore en activité. Delphine Simon, le gouvernement assure qu'il ne veut pas revenir sur sa promesse de fermeture, mais assouplir les conditions de fonctionnement.
Oui, à situation exceptionnelle, dérogation exceptionnelle. RTE, qui est chargé de gérer l'approvisionnement électrique, sonne l'alerte depuis le début de l'hiver, car le nombre de réacteurs nucléaires en état de fonctionner est historiquement bas. Pour se chauffer, la France importe massivement. EDF a modifié son calendrier de travaux. Des industriels acceptent de consommer plus en heure creuse, mais ça ne suffira pas en cas de grand froid et d'absence de vent. Il va falloir utiliser plus d'électricité produite avec du charbon. Or, depuis le 1er janvier, la loi fixe un plafond pour le fonctionnement des 2 dernières centrales. Ce plafond, le ministère de la Transition écologique veut le relever de 700 à 1000 heures par an. Une exception, dit-on, qui vaudra uniquement en janvier et février, c'est-à-dire lors du pic de consommation de l'hiver. Le projet de décret est en préparation. Pas question, prévient-on, de revenir sur le calendrier de fermeture des dernières centrales à charbon. Ce sera fin mars pour la centrale de Saint-Avold. Quant à la centrale de Cordemais, son sort est lié à l'entrée en service de l'EPR de Flamanville.
Explication Delphine Simon. À Toulouse, c'est le ramassage des ordures qui pose problème. Au moins 2 dépôts de collecte bloqués ce matin par des éboueurs grévistes. Plusieurs syndicats protestent contre la fin du principe du fini parti, ce système qui permet de quitter le travail dès la fin des tournées. À la cour d'assises spéciale de Paris, le procès des attentats du 13 novembre reprend. Salah Abdeslam, le principal accusé, avait contracté le Covid. Il est présent et apte à assister aux audiences. Selon un complément d'expertise, la cour qui doit entendre les accusés à partir d'aujourd'hui. Une nouvelle enquête contre le chroniqueur Pierre Ménès, enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nanterre pour agression sexuelle et harcèlement sexuel. Cela fait suite à la diffusion du documentaire de la journaliste Marie Portolano. Elle accusait Pierre Ménès, son ancien collègue, de plusieurs agressions sexuelles. 2 géants du web, Google et Facebook, mis à l'amende par la CNIL, la Commission informatique et liberté, condamnés à payer respectivement 150 et 60 millions d'euros. En cause, l'utilisation des cookies, ces traceurs numériques qui permettent de savoir quel site vous fréquentez pour ensuite vous envoyer de la publicité ciblée. Il doit être aussi simple pour les internautes de les refuser que de les accepter, ce qui n'est pas le cas dans la pratique. Google annonce ce matin qu'il va en tenir compte et apporter des changements.
L'actualité à l'étranger, à présent Jérôme Cadet à 13h18, et après l'Ukraine, voilà un nouveau sujet de préoccupation pour la Russie.
La situation au Kazakhstan, ancienne république soviétique située au sud de la Russie. Le pays est en proie depuis ce week-end à des émeutes. La contestation a d'abord éclaté en raison de la hausse du prix du gaz, mais elle est désormais politique. Le pouvoir du président pro-russe Kassym Jomart Tokayev est visé par les manifestants. Cette nuit, ils ont tenté de s'emparer de bâtiments administratifs. Conséquence, Thibault Lefèvre, le pouvoir kazakh, appelle son allié russe à la rescousse.
Oui, des parachutistes russes, mais pas que. Moscou intervient à côté de ses alliés de l'organisation du traité de sécurité collective, la Biélorussie, le Kirghizistan, le Tadjikistan et donc le Kazakhstan. Et c'est donc à l'appel du président kazakhstanais Kassym Jomart Tokayev que l'alliance intervient donc depuis ce matin. Car le pouvoir vacille et c'est une grande première depuis l'indépendance du pays il y a 30 ans.
Une arrivée qui intervient dans un contexte sanglant. La nuit dernière, des dizaines de manifestants ont été tués par la police et plus d'un millier de personnes blessées.
Oui, et 2000 arrestations, mais ces chiffres sont à prendre avec des pincettes parce qu'ils proviennent uniquement des agences de presse russes et des autorités locales. Toute la nuit, des tirs d'armes automatiques ont retenti, notamment dans Almaty, l'ancienne capitale du pays, avec donc des scènes de chaos dans un pays à l'arrêt. Internet ne passe plus et les institutions financières sont paralysées. Des manifestants ont même déboulonné et le symbole est historique. Des statues de l'autocrate de toujours, Nursultan Nazarbayev, 81 ans, qui dirigeait jusqu'à sa destitution hier, le Conseil de sécurité du pays, qui est le véritable organe du pouvoir au Kazakhstan. Le président Tokayev, appuyé donc par les Russes, est désormais le seul à tenter de tenir les rênes d'un pays qui a un intérêt géopolitique majeur pour Moscou, avec de l'uranium, des hydrocarbures et puis la base spatiale de Baïkonour, d'où partent depuis toujours les fusées russes.
Thibault Lefèvre, pour ces précisions, j'ajoute que l'Union européenne et les États-Unis appellent les différentes parties, je cite, à la retenue. Les États-Unis qui commémorent aujourd'hui les événements du 6 janvier 2020. 2021, il y a un an, l'assaut du Capitole par des milliers de partisans de Donald Trump dénonçant le vol de l'élection présidentielle. Le président Joe Biden prononce un discours cet après-midi. Il devrait évoquer la responsabilité de Donald Trump dans cette attaque. Il lui faudra être convaincant. Selon un sondage récent, seuls 55% des Américains estiment que Biden a été élu sans aucune fraude. Lui s'apprête à passer une deuxième nuit en rétention à Melbourne. Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis, veut disputer l'Open d'Australie qui débute dans 10 jours. Il peut y décrocher un 21e titre en grand chelem, ce serait historique. Mais Djoko n'est pas vacciné. Les autorités australiennes ont annulé son visa hier. Il a déposé un recours. Il sera examiné lundi. D'ici là, le Serbe ne sera pas expulsé. Alors les autres joueurs ne se privent pas de commenter, à commencer par l'Espagnol Rafael Nadal.
Je pense que s'il l'avait voulu, il aurait pu jouer ici, en Australie, sans problème. Maintenant, il a fait ses propres choix et chacun est libre de prendre sa propre décision. Mais derrière, il y a forcément des conséquences. Bien sûr, je n'aime pas la situation actuelle. D'une certaine façon, je suis désolé pour lui. Mais en même temps, il savait que les conditions avaient changé depuis quelques mois. Alors, il a fait son choix.
Raphaël Nadal traduit par Fabrice Abgral. Les patineurs français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, eux, ne disputeront pas les championnats d'Europe de patinage artistique la semaine prochaine pour éviter de contracter le Covid à moins d'un mois des JO d'hiver.
Merci Jérôme Cadet, c'était le journal de 13h. Retour à l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges dans un instant. Comment sortir de la crise? Quelles propositions avancent les candidats à la présidentielle? C'est dans quelques petites minutes. À suivre d'abord la météo.
Au terme de Cransac, paradis vert dans la vallée du Lot, nous prenons soin de vos articulations, de votre dos, de votre santé. Chaîne thermale du soleil. Prendre soin de vous, c'est notre métier.
Entreprendre, c'est toujours une grande aventure. Mais trop souvent, entreprendre rime avec attendre. Attendre l'ouverture de votre compte pro, attendre qu'un conseiller prenne votre appel, attendre que vos virements soient effectués. Attendez, vous n'en avez pas assez d'attendre. Alors passez chez Conto, le compte qui facilite la vie des pros. Avec Conto, ouvrir un compte pro en ligne ne prend que 10 minutes. La gestion de vos notes de frais se fait en temps réel et vous profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Conto, le compte au service des pros.
À Saint-Dié-des-Vosges, petite pluie neigeuse ce matin et le brouillard a du mal à se lever. Qu'en est-il ailleurs? On voit cela.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, Météo France, eh bien, c'est une journée d'hiver.
Exactement, avec pas plus de 2 à 6 degrés du Grand Est vers l'Auvergne et l'Ouest de Rhône-Alpes. Pas mal de nuages, quelques flocons encore possibles ici ou là. En allant vers l'Ouest et le Sud, 6 à 10 degrés attendus, jusqu'à 14 pour la Méditerranée. C'est souvent ensoleillé, mais avec beaucoup de vent pour la Méditerranée. En Corse, de nombreuses averses, de la neige vers 1000 mètres. Et puis on a une perturbation qui gagne le Nord-Ouest avec de plus en plus de nuages. De faibles pluies sur la Bretagne, sur le Cotentin avec du vent. Et ce temps progressera vers l'Est cette nuit en arrivant sur l'air froid. Un peu de neige sera possible temporairement. Et demain matin, les petites chutes de neige blanchiront les sols du Massif central jusqu'au nord-est.
Élodie Calac, Météo France, l'hôpital au carrefour de toutes les préoccupations à moins de 100 jours de la présidentielle. Voilà notre sujet d'aujourd'hui. Nous sommes à l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Précisément installé à l'entrée, là où les patients qui ont rendez-vous pour une consultation se présentent. Il y a pas mal de monde autour de moi. Et une image d'un endroit juste à côté, l'aile où nous avons préparé cette émission. Eh bien, c'était il y a un an le poste d'urgence Covid. Lors de la première vague, les urgences traditionnelles étaient pleines. Il reste quelques stigmates de cette période, des panneaux, attente couchée, attente assise, et une grande salle où sont alignés les robinets d'alimentation en oxygène. Alors cela nous remet en tête trois choses. La violence de la première vague ici, dans le Grand Est. La phase actuelle de l'épidémie de Covid est nettement moins rude, mais elle vient peser après 2 ans plus qu'éprouvants et dans un contexte de manque de personnel. Avant d'entendre nos invités, Véronique Julia, spécialiste des questions de santé à France Inter, on vous retrouve. Et nouvelle illustration en reportage avec vous. Il y a ici 47 praticiens hospitaliers pour 250 lits et près de la moitié des praticiens sont des médecins d'origine étrangère, notamment hongroise, bulgare ou roumaine. La moyenne d'âge tourne autour de 55-60 ans, ce qui pose évidemment la question de la relève. La ville de Saint-Dié attire peu, on manque de médecins partout, la diabéto, la gastro, l'obstétrique. Autre exemple avec vous Véronique, la pédiatrie, il y avait 2 titulaires, l'une des 2 va partir, on ne lui a pas trouvé de remplaçant, celle qui reste est déjà débordée et ça ne va pas s'arranger.
Et oui, 10 ans qu'elle cherche un successeur, qu'elle tente de préparer sa sortie, elle a cherché à Nancy, à Strasbourg, rien n'y fait. Aujourd'hui, le docteur Sylvana Trévisan approche des 70 ans, sa santé est fragile, elle ne travaille déjà plus que 2 jours par semaine ici. Le 1er avril prochain, elle s'en ira pour de bon à la retraite. À ce jour, personne pour prendre la suite.
Disons que là, ça devient difficile vu ma condition physique parce que j'ai eu des ennuis de santé. Donc, ça a tiré la sonnette d'alarme. Et là, moi, je ne peux pas continuer, c'est clair. On n'a trouvé personne, pas de candidature. Je m'inquiète de mon départ, c'est terrible, hein.
Et pourtant du travail ici, on n'en manque pas. 10 lits de pédiatrie, plus les consultations, les urgences, les naissances, les sorties de maternité, la vaccination Covid des enfants aussi depuis hier. Il n'y a jamais eu ici autant de travail.
Il y a du boulot. Il y a du boulot pour 2 pédiatres.
La personne qui travaille avec vous, elle peut pas assumer toute seule.
Non, bien sûr que non. Il y a des astreintes qui doivent être faites tous les soirs. Et là, ma collègue, au courant du mois de janvier, elle a 17 astreintes par mois, quoi. C'est des sommes inconsidérées, quoi.
Le seul espoir du docteur Trévisan aujourd'hui, ce sont 2 pédiatres algériens qui sont en renfort dans le service et qui veulent rester, mais qui n'ont pas encore leur équivalence de diplôme en France. Dès qu'ils l'auront, bientôt, on l'espère, ils seront sans doute la solution à cette vacance de poste qui menace pédiatrie et maternité.
Et pour prolonger la discussion sur le manque de personnel à l'hôpital, 3 invités à nos côtés, Véronique. Le docteur Pascal Mattei, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la commission médicale d'établissement. Bruno Husson, bonjour. Infirmier en EHPAD, un EHPAD qui dépend de l'hôpital, vous êtes représentant CFDT. Et bonjour Isabelle Quincy. Bonjour. Infirmière anesthésiste, représentante CGT pour votre part. Docteur Mattei, je voudrais d'abord qu'on parle d'un sujet qu'évoquait Véronique Julia ce matin dans le journal de 8h. L'impact des déprogrammations au fil des mois de Covid. En une semaine, 3 patients diabétiques qui n'ont pas pu être soignés aussi bien que d'habitude ou parce qu'ils ne voulaient pas venir à l'hôpital. 3 patients qui ont dû subir des amputations d'orteils. Les conséquences à bas bruit des déprogrammations en période de Covid, on commence à les voir, docteur Mattei.
Je pense qu'on commence à les voir. Et dans les semaines à venir, on les verra un petit peu plus.
Oui.
Que ce soit sur la diabétologie ou la cancérologie ou même de la chirurgie, je dirais un peu plus fonctionnelle que des urgences. Je crois que dans les semaines à venir, on va voir l'impact pas seulement des déprogrammations, mais aussi des craintes que peuvent avoir les patients de venir à l'hôpital, les difficultés que peuvent avoir certains patients, parce qu'on est quand même dans un territoire rural, à accès aux soins, toutes ces conjonctions, les unes mises au bout des autres, entraînent des difficultés de la prise en charge et des patients beaucoup plus lourds à prendre en charge.
On entendait au début du journal un autre reportage de Véronique, taux d'occupation des lits 93%. Ça vous amène à réaliser des choix cornéliens tous les jours, à arbitrer entre des urgences tous les jours quasiment.
Quasiment tous les jours, on se pose des questions. Heureusement, on a des petites réunions pluridisciplinaires entre médecins où on parle de chaque cas. Pour le moment, on n'a pas eu de choix cruciaux à prendre en charge. Oui. On arrive malgré un fort taux d'occupation actuellement des patients, je dirais, non Covid. Oui. On n'a pas eu actuellement à prendre de choix difficiles pour nous. On est là pour soigner tout le monde. J'espère que dans les semaines à venir, on n'est pas à le faire.
Le manque de personnel, pour poser une question claire, où manque-t-on de bras ici à l'hôpital de Saint-Dié? Dans quel service, quelle spécialité?
On manque un petit peu de bras, je dirais un peu partout, que ce soit des bras médicaux ou des bras soignants. Je dirais dans chaque service, on manque ou d'un médecin, ou d'une ou deux infirmières, ou d'une ou deux soignantes. Parce que nos patients sont plus lourds, nos patients, on a beaucoup de difficultés à prendre en charge.
On est à 15% de personnel manquant, je crois. Je me tourne vers Bruno Husson et Isabelle Quincy. En ce qui concerne les infirmiers et infirmières, on est à 25 sur un total d'à peu près 200. Pour votre EHPAD, Bruno Husson, Foncharu, qui dépend de l'hôpital, ben on commence à rappeler des gens sur leur congé.
Oui, ça nous est déjà arrivé. Actuellement, là, dans la période de janvier, non. Mais sur l'année 2021, on a déjà eu le cas. On a aussi dû changer nos habitudes de travail, c'est-à-dire que au lieu de travailler par équipe de 7h30, il a fallu repasser à du 12h pour
c'est
justement
ça.
Pallier à l'absence de nos concerts.
Des plages de travail plus longues, ça veut dire, Isabelle Quincy, qu'au fil des mois, les conditions de travail se dégradent.
Voilà, c'est ça, parce que effectivement, en plus de cette crise qui nous est arrivée subitement, comme dans tous les hôpitaux, donc les équipes ont été fortement mobilisées, comme je le dis, les cloisons se sont effondrées, le personnel a été vraiment mutualisé, donc s'est retrouvé à effectuer des soins dans des services qui n'étaient pas les leurs. Mmh. Donc ça a quand même généré beaucoup de stress, de fatigue supplémentaire et de capacités d'adaptation qui ont été quand même importantes à produire. Ouais. Et puis après tout ça, il a fallu quand même continuer à enchaîner sur les pathologies habituelles et même avec des prises en charge retardées, comme le disait Monsieur Mattei. Et donc la longueur des efforts a généré tout de même un épuisement professionnel qui fait qu'actuellement on se retrouve avec un taux d'absentéisme assez important lié aux arrêts maladie.
Et on apprécie que vous soyez là parce que, bah, par exemple, vous étiez de garde cette nuit.
Oui.
Voilà. Et vous reprenez quand?
Je reprends demain, voilà, mais ça c'est notre lot quotidien à tous, il y a moi, mais il y a aussi beaucoup d'alternatives, de contraintes horaires, même sans avoir de garde, qui sont difficiles à enchaîner. Hein. Le personnel finit souvent tard le soir, peut reprendre très tôt le matin, et sont même amenés à être rappelés sur leur jour de congé pour pouvoir pallier à des absentéismes dans d'autres services.
Les cycles horaires. Emmanuel Macron, dans son interview au Parisien, évoquait hier le fait que, au-delà de la question du salaire dont on parle dans un instant, le rythme de travail pour les infirmiers, c'était vraiment quelque chose de difficile et qu'il fallait travailler là-dessus. S'il y a une piste de réforme, elle est de ce côté-là, de votre point de vue à tous les deux. Bruno Husson.
Pour nous, pour la CFDT, en fait, on est surtout dans un manque de recrutement d'effectifs. On aurait plus une politique un peu de savoir si on ne peut pas attribuer un certain nombre de patients, faire une quantité patient-soignant, oui. Comme on a dans des services dédiés déjà, hein, la réanimation, on a. Nous, on est plus confrontés à ces difficultés-là. Par exemple, si on prend le médico-social, aujourd'hui, on est confronté à des infirmiers qui vont gérer pour un poste 70 résidents, voire plus.
Un poste, oui. 70 résidents.
Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on voudrait plutôt, c'est pouvoir mettre en place... c'est un choix, je veux dire, le rythme rythme de travail, jour, nuit, les alternances, travailler sur les jours fériés, travailler les dimanches, ça fait partie quelque part du métier, on le savait en y allant. Hein. L'hôpital ne ferme pas à 19h et il ne ferme pas les jours fériés.
Ouais. Mais donc, moins de patients par infirmier.
Mais voilà, oui, enfin, oui, essayer d'équilibrer à la charge de travail pour que ça reste humain.
Alors, lors de nos émissions délocalisées jusqu'à l'élection présidentielle, le service politique de France Inter sera de la partie. Que proposent les candidats en réponse à toutes les questions que soulèvent nos invités? Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Vous êtes en direct des studios de France Inter à Paris. Vous inaugurez la formule, Élodie. Alors, contre le manque de personnel à l'hôpital, que proposent les candidats?
Eh bien, de recruter et de payer davantage. À droite, Valérie Pécresse supprime certes 200 000 fonctionnaires, mais crée 25 000 postes à l'hôpital. Qui dit mieux? Le communiste Fabien Roussel. 100 000 soignants supplémentaires pour l'hôpital public. Recrutement massif de personnel, dit aussi sans chiffrer la socialiste Anne Hidalgo. Deuxième axe, le salaire. Anne Hidalgo toujours promet une grande négociation. Aller au-delà du Ségur, c'est également dans le programme de Marine Le Pen. 10% de plus pour les infirmiers et infirmières pour atteindre le salaire moyen européen. Mesure que la candidate du RN veut notamment financer en supprimant l'AME, l'aide médicale de l'État pour les étrangers en situation irrégulière. L'attractivité de l'hôpital, c'est enfin l'une des préoccupations de l'écologiste Yannick Jadot qui veut, entre autres, rénover tous les bâtiments vétustes.
Merci Élodie Forêt, on vous retrouve dans quelques minutes. Bruno Husson, Isabelle Quincy, on est tous pour qu'on recrute massivement des soignants, mais première question, ce qu'on a décrit là depuis 13 heures, c'est un manque de soignants. On n'en trouve pas aujourd'hui, on aurait beau donner de l'argent pour en avoir davantage, ça ne réglerait pas la question de la pénurie de personnel, si?
Bah malheureusement, à l'heure actuelle, non. Parce que la pénurie, on parle des soignants, mais la pénurie qui est aussi, docteur Mathilde l'a souligné, c'est le manque de médecins. Hein. Et un médecin, c'est 10 ans pour être formé, au minimum, hein, selon la spécialité. Donc à l'heure actuelle, on n'a pas les praticiens. On a le résultat d'une politique du numerus clausus qui a été introduite dans les années 80-90.
Ça monte en puissance quand même.
Ça monte en puissance, ouais. Mais... maintenant, ça va monter en puissance, mais ils ne seront pas diplômés avant une dizaine d'années.
Ouais.
Donc pendant 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? Hein, c'est pas pour rien qu'on ferme des lits aussi. On ferme des lits, c'est pas qu'une raison économique, c'est aussi si vous n'avez pas de médecin, vous ne pouvez pas prendre en charge de patients. Donc on ne peut pas garder des lits ouverts vides de médecins.
L'attractivité, Bruno Husson, vous avez 45 ans, pardon, mais vous êtes payé combien?
En net ou en brut? Parce que ça, c'est le gros problème, c'est que dans les médias, on a un petit confusion.
Ah bah alors allez-y, clarifiez les choses. Parlons en net. Qu'est-ce que vous avez dans la poche quand on vous verse le salaire?
Alors, dans la poche, après impôt ou avant impôt?
Après.
Après impôt, ouais. Je suis à 1978 euros.
Pour 6 ans d'ancienneté, parce que vous avez
6 ans d'ancienneté, c'est ça, voilà. Oui, tout à fait.
Le Ségur a arrangé les choses, Isabelle Quincy, ça suffit pas? Est-ce que la question du salaire est une question clé? Et on sait, on en parlera dans cette émission, qu'il y a une concurrence entre les hôpitaux. Est-ce que quand on est infirmier, on se dit, tiens, ben, on va aller regarder ce que propose Épinal, ce que propose Nancy, ce que proposent les autres en termes de salaire?
Alors effectivement, je pense que le salaire doit être un choc d'attractivité pour l'embauche. Nous tenons quand même à noter que la politique de financement des hôpitaux depuis 2004 avec le plan Hôpital 2007 a été quand même menée d'une façon peut-être non appropriée, dans le sens où les hôpitaux ont été gérés...
Vous allez me parler de la tarification.
Voilà,
on y reviendra tout à l'heure.
D'accord.
Mais moi, je reste sur le salaire. Parce
d'accord.
qu'après tout, Ségur, entre les hausses de salaire, les primes, c'est à peu près quoi? 300 euros?
Alors, ça dépend du point, de votre catégorie, de l'échelon dans lequel vous êtes.
Oui.
Et effectivement, il y a eu le Ségur 1 qui a revalorisé quand même toutes les professions médicales, le Ségur 2 pour les professions médico-soignantes. Mais je pense qu'on peut encore faire des efforts pour essayer de motiver les sorties d'instituts de formation.
Oui.
Pour encourager les futurs professionnels avec un salaire plus attractif.
Docteur Mattei, qu'est-ce qu'on fait pour attirer du monde à l'hôpital de Saint-Dié?
Comme vous l'avez dit, je pense que le Ségur est une réponse que partielle à attirer le monde à l'hôpital et à l'hôpital de Saint-Dié. L'hôpital de Saint-Dié, on a deux problématiques. On a la même problématique que tous les hôpitaux nationaux de recrutement, de personnel, de ressources humaines, qu'elles soient médicales ou soignantes. Et on a aussi une problématique géographique.
Oui.
On est le seul hôpital sur un massif montagneux, d'accès des fois un petit peu difficile, et on le voit aujourd'hui avec la neige.
Pour 100 000 habitants à peu près. Hein.
Pour à peu près 100 000, 120 000 habitants. Et si on
pour la zone, hein, Saint-Dié voilà, c'est 20 000 habitants et la zone de l'hôpital c'est 100 000.
Et là, on travaille avec les politiques, ce que nous avons déjà engagé pour l'accueil des internes, pour...
Alors c'est quoi concrètement ? On rénove l'internat, par exemple ?
Concrètement, on a rénové l'internat de fond en comble, on a prévu pour eux des moments de distraction, on travaille avec la mairie et les commerçants de Saint-Dié pour leur faciliter les... certains accès, en particulier à la piscine
municipale,
complexe aquatique. Ouais.
Et en termes de salaire, vous avez, vous, hôpital, des marges de manœuvre pour dire, je sais pas, on vous verse des primes, on facilite l'intégration des, la titularisation des infirmiers. Vous avez des marges de manœuvre de cette nature-là ou pas ?
On facilite l'intégration et les CDI des infirmiers et de soignants.
Quand on parlait de création massive de postes dans les programmes électoraux, juste une question, est-ce que vous y croyez quand on parle de 25 voire de 100 000 créations de postes de soignants? A priori, je pense pas que ces candidats nous disent qu'ils vont massivement augmenter les impôts. Est-ce que vous y croyez? Vous dites oui, ça y est, on va les voir.
J'y crois qu'à moitié. L'intention est peut-être là, le problème c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il faut les trouver. Il faut trouver ces 100 000 soignants, que ce soit un médecin, une aide-soignante ou un infirmier, on ne le forme pas en 5 minutes ou par la volonté de le faire. Comme l'a dit Isabelle Quincy, c'est des rappels sur les congés, c'est pas de week-end, c'est si on travaille ce qu'on appelle en contre-équipe avec son épouse ou son époux, ben on se voit jamais. Ben c'est quand même une vie qui est difficile et on trouve pas les volontaires comme ça en 5 minutes.
Isabelle Quincy, dernière question. Je sais que la question de l'attractivité du territoire, vous y êtes attachée. On va entendre un témoignage dans un instant. Mais enfin, il y a une école d'infirmiers et d'infirmières qui dépend de l'hôpital. L'année dernière, 30 élèves dans la promo, pas un n'est resté à Saint-Dié.
Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse fuite par rapport certainement à l'activité libérale qui est plébiscitée. C'est vrai qu'avec la direction, en réunion de partenaires sociaux, on essaye de créer des conditions d'embauche qui sont favorables, en tous les cas qui s'alignent sur des hôpitaux de grande envergure, oui, tels que Nancy, c'est-à-dire un CDI assez rapidement, avec des conditions qui peuvent s'aligner et être concurrentielles par rapport à d'autres endroits. Mais effectivement, après, les choix restent personnels. Même les gens qui sont attachés à cette région peuvent effectivement aller voir ailleurs. Mais peut-être un jour pour revenir aussi.
Merci à tous les trois. Juste une dernière question, docteur Mattei. Hôpital plus grand, Nancy par exemple, hôpital plus riche, est-ce que ça veut dire ça ?
Non, ça veut dire pour nous, hôpital de recours, on retrouve des spécialités, des sur-spécialités qu'on n'a pas ici.
D'accord. Merci à tous les trois. Alors, ce témoignage que je vous avais promis au micro de Véronique Julia, il s'appelle Jocelyn, il a 24 ans, il est étudiant en troisième année à l'Institut de formation en soins infirmiers ici à Saint-Dié. Troisième année, ça veut dire qu'il sort diplômé dans quelques mois. Il a bien aimé étudier ici, mais de là à s'installer durablement. Et dans la dernière promo, on le disait, aucun étudiant n'a choisi Saint-Dié. Ils ont en général préféré, comme lui, les grandes villes.
Moi, mon projet professionnel après la formation sera de retourner plus sur Nancy. Parce que l'hôpital, c'est un hôpital universitaire, donc il offre plus de possibilités de formation et d'évolution dans mon parcours professionnel.
Saint-Dié a aucune chance de vous retenir.
C'est pas aussi poussé dans la recherche et... dans les possibilités d'évolution.
Mais c'est la ville contre la campagne ?
Un petit peu aussi. Mais par contre, sur Nancy, eux, ils proposent un programme de parrainage. Donc ils nous financent les derniers mois de notre formation, en hauteur d'environ un peu moins de 1500 euros. En échange de quoi, on doit travailler pendant un certain temps pour eux. C'est un argument qui a fortement joué dans mon choix.
Et pour prolonger la discussion, trois nouveaux invités, vous en avez déjà entendu deux d'entre eux, docteur Marie-Françoise Bragard, cardiologue, chef du pôle médecine urgence ici à l'hôpital de Saint-Dié, le professeur Claude Mestelman, professeur d'anesthésie réanimation au CHU de Nancy, qui travaille très régulièrement ici, et puis également autour de la table, le maire de Saint-Dié. Bonjour David Valence.
Bonjour.
On vient d'entendre Jocelyn, l'infirmier, dire « c'était chouette d'étudier à Saint-Dié, mais je vais pas y rester, je préfère aller à Nancy ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'est-ce que vous faites pour que des Jocelyn restent à Saint-Dié ?
Déjà, je crois que pour valoriser la fonction d'infirmier et pour inciter un maximum de personnes à s'engager dans cette carrière-là, il faut en parler différemment. Ça reste un métier formidable, humainement. C'est un métier de passion, c'est un métier où on donne pour les autres, c'est un métier qui donne du sens à la vie. Et ça, je crois que avant de se lancer dans des descriptions qui sont parfois très noires, il faut le dire parce que c'est ça d'abord la réalité du métier.
Ça d'accord, mais une fois qu'ils sont formés, ils veulent aller plutôt à Nancy, plutôt à Strasbourg, plutôt à Épinal qu'à Saint-Dié, ville voilà moins importante et où de jeunes infirmiers préfèrent aller ailleurs.
Alors, vous savez par exemple que la ville vient de rouvrir une ligne ferroviaire, elle est facilement accessible.
On en parlera tout à l'heure.
Vous pouvez aller facilement en train à Nancy.
Donc la question des transports.
Consommer des loisirs. Ouais. Vous pouvez aller facilement à Strasbourg, on a sauvé cette ligne avec la région en 2018. Ouais. Et maintenant vous pouvez aller facilement à Épinal. Donc l'un des critères d'attractivité, c'est la façon d'aller dans une ville. On peut y aller facilement par la voiture, par le train. Ensuite, adapter une ville, c'est l'adapter aussi aux familles.
Voilà.
On a créé des grands espaces verts en centre-ville, un grand jardin public en centre-ville avec des jeux. C'est aussi maintenir des emplois, c'est-à-dire un écosystème industriel, économique, qui est incitatif, qui est dynamique. En ce moment, on a une entreprise de 200 personnes qui s'installe ici. Et puis, c'est valoriser le cadre de vie. Vous avez dû voir qu'à Saint-Dié-des-Vosges, on est au cœur de la montagne et en même temps, on n'est pas enclavé, on n'est pas inséré. Et donc, moi, je crois que c'est important de dire une chose. Dans nos territoires, dans nos villes moyennes, et on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec les confinements, la qualité de vie, elle est sans commune mesure avec celle qu'on peut trouver
c'est
parfois
ça que vous
dans
défendez.
Des grandes villes. Et c'est un ancien Parisien qui vous le dit.
Et pardon, encore une question, et puis on entend nos deux autres invités. Les infirmiers, les médecins, qui sont un peu en position de force, est-ce qu'ils vous disent, écoutez, moi je veux bien venir, mais trouvez un job à mon épouse ou à mon époux, et trouvez-moi une place à l'école. Ils vous disent, c'est de cette nature-là aussi?
Alors, c'est ce que fait le plan santé du département, qui marche très très bien, notamment pour les médecins libéraux,
ouais.
Où le département accompagne, y compris les épouses des médecins, qui veulent s'installer en centre-ville, à Saint-Dié-des-Vosges, comme à Neufchâteau ou à Épinal.
Claude Mestelman, avant d'entrer dans le détail, on vous a entendu dans les titres du 13h, il vous manquait une infirmière au bloc opératoire. Deux minutes plus tard, on a appris qu'il en manquait trois. On en est où, là, à 13h44 ?
On en est au même point, bon. Trois infirmières avec des prélèvements positifs ou des suspicions de Covid. Et c'est ce qu'on va encore vivre pendant une quinzaine de jours. On s'y attend et on s'y prépare.
Ce qui veut dire que là, il y a des opérations qui sont en balance et qui peut-être ne pourront pas avoir lieu dans les heures ou les jours à venir.
Pour le moment, on n'a pas dû déprogrammer comme l'ont fait nos collègues parisiens depuis une quinzaine de jours. Mais il n'est pas impossible, parce qu'on est en décalage sur les infections Covid par rapport à d'autres régions, que pour les 15 jours qui viennent, on déprogramme un certain nombre de patients.
Docteur Bragard, je repose la question qu'on a évoquée dans le premier plateau. Y a-t-il une concurrence aujourd'hui pour attirer du monde entre les hôpitaux? Vous nous avez parlé, en préparant cette émission, de l'hôpital d'Épinal, qui publie une annonce pour un spécialiste à 15 000 euros par mois, par exemple.
Oui, effectivement, nous avons vu apparaître cette annonce sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a une concurrence entre les différents hôpitaux. Nous, pour l'instant, nous essayons de nous en tenir aux recommandations, à ce qui est permis par la loi. Et effectivement, donc, il y a certains médecins qui ne viennent pas chez nous à cause de ça, quoi.
Question clé pour vous, les internes, quand ils arrivent, essayez de les bichonner pour qu'ils restent, bon sang.
Bien sûr. Les internes, c'est des médecins en devenir pour notre territoire. Et non seulement les internes, mais on essaye aussi de les avoir auparavant, c'est-à-dire après leur stage de première année de médecine, puis ensuite quand ils sont externes, puis ensuite quand ils sont internes. Et s'ils se plaisent à l'hôpital de Saint-Dié, s'ils y trouvent un lieu de travail correct, si l'environnement leur convient, ce sont des médecins qui après viennent travailler chez nous. Et on a l'exemple s'il suffit de regarder, les derniers installés ou les dernières arrivées sur l'hôpital sont le plus souvent des gens qui ont travaillé avec nous comme internes.
Vous êtes un médecin d'expérience, vous pensez déjà à la personne qui vous remplacera, est-ce que vous savez qui, est-ce que c'est identifié?
Depuis 18 mois, on a un médecin cardiologue qui est arrivé de Nancy. Pour l'instant, il est à temps partagé au CHU et à Saint-Dié. Mais il a la volonté de rester sur Saint-Dié dans les prochains mois. Mais notre espoir, nous, dans l'hôpital de Saint-Dié, et vu notre territoire, c'est d'avoir beaucoup de médecins de ce type-là pour qu'ils puissent garder une activité spécifique et pointue au CHU et puis faire l'activité plus de routine et plus quotidienne, donc dans les hôpitaux de notre taille.
Docteur Mestelman, la question clé, c'est celle de la mauvaise répartition des médecins, au fond.
Oui, mauvaise répartition, parce que les jeunes médecins sont attirés souvent par les villes de faculté. Mais je crois qu'il faut quand même relativiser.
Ah.
Ici, on a un hôpital de qualité, avec une chirurgie et une médecine de qualité. On a un plateau technique qui est excellent. Moi, j'ai été très agréablement surpris quand je suis arrivé à Nancy,
oui,
à Saint-Dié, il y a un an, par la qualité du plateau technique, avec un hôpital qui est moderne. Et je pense que les Vosges, et Saint-Dié en particulier, ont des moyens d'attirer des jeunes médecins. D'autant qu'il y a une chose importante, c'est que on parlait de 100 à 120 000 personnes dans le bassin de population. On arrive plutôt à 150 000 quand on va jusqu'à Gérardmer. Et le CHU de Nancy ne peut pas prendre en charge les patients que Saint-Dié prend habituellement en charge si l'activité devait baisser. Donc, on a une obligation de réussite et de travail de qualité pour redonner du dynamisme. On est sur la bonne voie.
Et vous vous dites, jeune docteur, le plateau technique est très bon ici, venez, vous pourrez travailler dans de bonnes conditions. Et puis le numerus clausus qui a augmenté, ça va se voir quand même au bout d'un moment, professeur
Non
Messerman.
Seulement ça va se voir, mais nous c'est un problème qu'on discute à la faculté de médecine de Nancy, parce que quand on augmente, on a doublé, on est passé de 3500 à 7000 étudiants, mais que l'année dernière, on nous rajoute 20% d'étudiants en médecine supplémentaire, la formation, on ne peut pas la faire uniquement au CHU. On a besoin d'établissements comme Saint-Dié qui reçoivent, comme le disait ma collègue Marie-Françoise Bragard, des internes, des étudiants en médecine. Les stages hospitaliers, ça commence en troisième année. Donc il va falloir très vite augmenter les capacités de formation sur Saint-Dié.
Les 7000, ils sortent quand ?
Ah ben les 7000 sortent actuellement, on est même plus près de 8000 actuellement, donc c'est pour ça qu'il y a des postes d'interne ici, voire de docteur junior.
David Vance, on a parlé du manque de médecins à l'hôpital. En ville, de quel type de praticien manquez-vous ?
On manque de spécialistes, par exemple en gynécologie, en pédiatrie, en ophtalmologie. Et on manque aussi de généralistes, parce que beaucoup d'entre eux vont prendre leur retraite. Alors, il y a des solutions pour cela. Il y a le plan santé du département que j'ai évoqué, où il y a vraiment une prise en charge quasiment de A à Z des jeunes internes qui se préparent à exercer la médecine, pour pouvoir les inciter à venir s'installer dans des villes comme les villes vosgiennes. Et puis, il y a l'accompagnement pour les maisons médicales. Alors, il y en a une qui fonctionne très bien, à Saint-Dié même, qui est groupé autour d'une pharmacie. Aujourd'hui, on accompagne la ville de façon assez forte un projet de création d'une nouvelle maison médicale. Pourquoi ? Parce que les médecins d'aujourd'hui veulent plus travailler comme ceux d'il y a 10 ou 20 ans. Et ils veulent pouvoir être dans une communauté médicale et ne plus nécessairement avoir des horaires à rallonge comme autrefois.
Allez, d'autres pistes de réforme. Élodie Forêt, vous êtes toujours là dans les studios France Inter à Paris ?
Oui, je suis toujours là.
On vous retrouve, service politique. On parlait du personnel tout à l'heure dans les propositions des candidats à la présidentielle. D'autres réformes structurelles à présent dans leurs propositions, Élodie ?
Oui, il y a une bête noire, hein, Bruno. Les ARS, les agences régionales de santé, Anne Hidalgo et Éric Zemmour veulent les supprimer car elles participent, pour ce dernier, je cite, à la technocratisation de la gestion de la médecine. Dans le viseur aussi, la tarification à l'acte, la fameuse T2A instaurée en 2004. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon souhaitent revenir à la dotation globale de fonctionnement avec un moratoire sur la fermeture des lits. Sur une organisation plus globale, cette fois de la santé, revient beaucoup la question des déserts médicaux. Embauche de 1000 médecins salariés par l'État, préconise Éric Zemmour. Recrutement de médecins public, dit aussi Jean-Luc Mélenchon, ainsi qu'une augmentation des moyens pour les facs de médecine pour véritablement supprimer le numerus clausus.
Des médecins publics, je me tourne vers les deux hospitaliers qui sont à la fois membres du service public et en même temps médecins, donc sans doute attachés à l'exercice libéral de la profession. Des médecins salariés et publics, est-ce que c'est une piste contre les déserts médicaux ? Docteur Bragard.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est une piste intéressante. On a vu des départements où ça fonctionne très bien. Les médecins ne veulent plus actuellement avoir des horaires à rallonge, comme cela a déjà été dit. Et donc, ça permet d'avoir des activités plus régulées et de travailler de façon plus agréable.
Et vous pensez que vos jeunes collègues accepteront ?
J'espère.
Professeur Mestelman, sur cette question ?
Moi, je vais reprendre les propos de Monsieur le maire, c'est-à-dire qu'il faut offrir un package maintenant. Il faut prendre ce package, c'est effectivement, si le conjoint a un emploi, il faut l'aider. Il y a les maisons médicales pour les praticiens qui s'installent en privé. Je pense pas que c'est le problème de ce côté salarié, etc. C'est un vaste problème d'organisation, c'est-à-dire que le médecin, il a plus envie, comme on l'a dit, d'être seul. Donc, on a intérêt, dans des établissements, à avoir toutes les activités. Et puis, c'est un effet boule de neige, parce que si vous avez à la fois des radiologues compétents, des cardiologues compétents, ben, un médecin généraliste, il aura plus tendance à venir là, de par la présence de moyens et de collègues dans les autres disciplines.
Est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase à quoi servent les ARS, et est-ce que les candidats qui cognent sur les ARS vont trop loin, ou est-ce qu'il y a une partie de fondée ?
Je crois que le Ségur de la santé, et moi là je vais prendre ma casquette de membre d'un comité, d'un syndicat, ouais. Eh bien il est clair qu'il faut qu'on arrive à via ce Ségur, hein, c'était d'ailleurs l'objet des propositions Clarisse, à un changement de gouvernance. Il faut un peu donner d'air aux décisions médicales. Mais c'est pas que la faute des ARS, c'est que depuis la mise en place du plan HPST, on n'a parlé que de deux choses.
Hôpital et territoire.
Voilà,
hein, ouais.
C'est la T2A et on diminue le personnel. On s'est rendu compte avec le Covid qu'on était, si vous me passiez l'expression, à l'os. Ouais. Donc il faut redonner de l'oxygène. Mais c'est tout le milieu de la santé et le fonctionnement hospitalier qu'il faut un peu modifier. Le rapport Clarisse a donné beaucoup de pistes et d'espoir.
Au fond, lors de la première vague, les médecins avaient pris le pouvoir et l'ont reperdu un petit peu à l'hôpital.
Moi, je sors de ces discussions de pouvoir.
Il n'y a pas des gentils médecins et les méchants fonctionnaires.
Personnellement, je viens d'un centre anticancéreux prestigieux, l'Institut Gustave Roussy. Dans le centre anticancéreux, il y a à la fois un médecin qui est directeur et un directeur administratif. Et ils travaillent en très bonne intelligence. C'est ce qui se passe dans les pays scandinaves. C'est ce qui se passe également dans des pays comme la Hollande ou l'autre. Et je pense que ça fonctionne très bien. Donc, faut, je dirais, améliorer les gouvernances. Maintenant, taper sur l'ARS, c'est facile, ça ne résoudra jamais les problèmes.
Sortir de la tarification à l'activité, docteur Braga, en gros, avant, on finançait un hôpital, désormais, on finance par activité, ce qui amène à privilégier éventuellement des opérations qui rapportent sur la prévention, par rapport à la prévention. Est-ce qu'il faut en sortir complètement, partiellement ?
En sortir, ça c'est sûr qu'il faut en sortir. Peut-être partiellement, c'est sans doute une bonne idée. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse retrouver la possibilité de faire de la prévention, ce qui a été complètement oublié dans les dernières années à l'hôpital public, faire de l'éducation thérapeutique, motiver les patients pour qu'ils se prennent en charge aussi, parce que c'est une grande partie de leurs soins. Et tout ça, on ne peut plus le faire actuellement parce que ce n'est pas financé du tout. Donc on a pu le faire un certain temps avec des infirmières qu'on arrivait à trouver des quarts de temps par-ci, des quarts de temps par-là. Mais maintenant, comme disait Monsieur Meistelmann, nous sommes à l'os, donc tous ces postes-là ont été supprimés et donc tout ça ne se fait plus et c'est une grande perte de chance pour la prise en charge des patients.
Alors on va parler d'un dernier sujet qui tient à cœur au maire David Valence. Quand on parle de l'importance du service public sur un territoire, et ça joue aussi pour les médecins, on le disait tout à l'heure, monsieur le maire, on pense à l'hôpital mais aussi au train. Et c'est ici à Saint-Dié qu'un train emblématique a fait son retour le 12 décembre dernier. Avec la remise en service de la ligne Épinal-Strasbourg, une de ces petites lignes qui avait fermé celle-ci en 2018. Alors Sarah Guibaudot a pris le train hier d'Épinal à Saint-Dié. La rame n'est pas pleine, il y a surtout des jeunes.
Alors là, je suis actuellement en apprentissage en pâtisserie à Moyenmoutier. Donc moi, je le prends pour Saint-Dié-des-Vosges. Et depuis qu'il y est, ça me permet de moins demander à mes parents de venir me chercher à Épinal. Pareil, quand je vais voir mes amis, je peux prendre le train.
Quelle heure ?
Moi, je prends le train Épinal-Bruyères pour faire mes trajets au niveau professionnel. Ça permet de bouquiner. Et puis, le côté écologique, le train est là pour une personne comme pour 100, donc content d'être dedans, le train.
Ça change beaucoup la vie, parce que le bus, c'est un peu chiant, c'est plus long.
Bienvenue à bord du TER Fluo à destination de Strasbourg-Ville.
Je suis étudiante à Strasbourg. La réouverture de la ligne Épinal-Strasbourg en passant par Saint-Dié, ça a quand même facilité beaucoup de choses. Déjà, ça réduit le prix parce que par Nancy, il y a plus de kilomètres, donc c'est plus cher. Et puis, le temps, c'est pareil. Hein, on n'est que 2h30 au milieu de 3h et il n'y a pas de risque de louper de correspondance, il n'y a pas de stress.
Saint-Dié-des-Vosges, ici, Saint-Dié-des-Vosges.
David Valence, maire de Saint-Dié, quelle importance le retour de cette ligne a-t-elle pour votre ville ?
D'abord, c'est la seule ligne en France qui a rouvert après une fermeture cette année, enfin plutôt l'année dernière, en 2021. Donc c'est un symbole et ça a été permis, il faut le dire, par l'engagement à la fois de la région et du président de la République qui était venu ici en 2018. C'est très important parce que l'une des choses qui fait qu'on s'installe dans une ville, et ce sera de plus en plus vrai, c'est qu'on a le choix de pouvoir de temps en temps, et pas tout le temps pour certains d'entre nous, mais de temps en temps pouvoir prendre autre chose que le véhicule individuel. Parce que la voiture, ça coûte cher, la voiture, ça pollue, on le sait, et les jeunes générations, ils seront de plus en plus attentifs. Donc pour nous, avoir une ligne de train qui nous permet d'aller à Épinal, qui est la ville principale du département, c'est très important. Et puis pour Épinal, pour Bruyères, pouvoir aller à Saint-Dié et à Strasbourg directement, sans rupture de charge, c'est très important. Vous savez, nous sommes dans, on est dans des vallées où beaucoup de choses se sont partis ou ont été très difficiles dans les années 60, 70, 80. Les gens ont eu l'habitude de perdre des choses. Là, c'est quelque chose qu'on a regagné. Et donc, moi, j'y vois une forme de symbole, d'une forme de renouveau du territoire. Vous allez me dire, quand on est élu, on est obligé de dire ça. Oui, je le crois.
Non, non, mais je crois qu'il y a aujourd'hui bien l'idée vraiment, ils ont beaucoup perdu et là, on gagne quelque chose.
Il y a vraiment des signes aujourd'hui dans le territoire qui montrent que la crise qu'on a vécue de la Covid-19, les confinements qu'on a vécus, c'est peut-être aussi une opportunité pour les villes moyennes.
Et maintenant, il va falloir réhabituer les gens à prendre le train ?
Eh bien oui, alors ça va prendre du temps. Évidemment, les gens ils reprennent pas le train du jour au lendemain. Y aller, là, ça fait 3 semaines, 1 mois que la ligne a rouvert. Évidemment que tout le monde n'a pas repris cette habitude. Mais ça prend au moins 1 an, 2 ans de réinstaller une ligne ferroviaire dans le paysage.
Merci à tous les trois. Cette émission arrive à son terme. Je remercie tous ceux que je dois remercier dans un tout petit instant. D'abord, quelques réclames, puis Mathieu Vidard.